Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la Bible, la parole de Dieu, l'Écriture sainte, est un trésor incommensurable. Mais pour le réaliser et s'en emparer, c'est comme quand on veut trouver des diamants, il faut creuser pour y parvenir. Mais celui qui y creuse avec persévérance sera réjoui, émerveillé et récompensé au-delà de ses espérances. Quelqu'un disait un jour que dans la lecture et la méditation de l'Écriture, il y a trois âges, trois stades. Celui de l'huile de ricin, celui du plat journalier et celui des pêches à la crème. On comprend l'image. L'huile de ricin venant d'abord, c'était très amer, désagréable au goût, mais bon pour la santé. Le plat journalier, ce n'était pas le plus agréable au goût, mais c'est ce qui soutient l'existence jour par jour. Les pêches à la crème, c'est un délicieux dessert. Nous ne pouvons que souhaiter à chacun de nos auditeurs qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, il ou elle atteigne sans tarder l'âge des pêches à la crème, faisant ainsi ses délices de la Bible et en recueillant tous les merveilleux bénéfices. Voici un témoignage. Donc, c'est celui d'une sœur qui a expérimenté la puissance de Dieu. Voici ce qu'elle dit. J'ai une histoire merveilleuse à raconter. J'avais de la peine à marcher. Mes hanches, mes genoux et mes une cheville étaient très douloureux et quasi bloqués. J'étais atteinte d'une arthrose aqueuse qui débuta en 1946 et qui était incurable, selon l'avis de tous les médecins consultés. On pouvait tout au plus en enrayer le mal, mais non le guérir. Et après X nombre d'années, je devais passer ma vie dans un fauteuil. Le jour du Vendredi Saint 1959, je me traînais au culte comme chaque dimanche en m'appuyant sur deux cannes et avec une peine inouïe. Je m'efforçais toujours d'aller au culte le dimanche, sachant que ce serait bientôt la fin de mes sorties. Tout le village constatait l'aggravation de mon mal et chacun se montrait compatissant, je dois l'avouer. Ce jour-là, il y a maintenant environ un an, je ne me levais plus pour chanter pendant le service et je dus refuser l'aide que me donnait habituellement une voisine pour me tenir debout. Je ne pouvais vraiment plus. À la sortie du culte, je fis mes adieux à chacun, en me ramenant en auto, comme chaque dimanche, et l'on me hissa dans l'escalier de ma maison jusqu'au premier étage. Là, une fois la porte fermée, je me dis « Maintenant, c'est le fauteuil. Que vais-je devenir ici ? Le plus simple serait que j'entre à l'hospice de la côte. » Pendant tout l'après-midi, au prix d'atroces douleurs, j'errai dans ma grande demeure. À 17h, tandis que je méditais sur ce que j'avais à faire et sur ce que je pourrais tenter, je pensais tout à coup à un pasteur âgé de Neuchâtel qui impose les mains. Je décidai de le faire appeler, quand soudain j'entendis à côté de moi une voix très distincte me dire « Pourquoi ce pasteur et non pas toi ?» J'étais bien éveillé, je vous l'assure. Après quelques hésitations, j'obéis et priai, là, seul dans ma chambre, demandant à Dieu une amélioration. Je ne demandais pas même ma guérison, me sachant incurable. Et j'ajoutais que je serais alors disponible pour le service. Je m'arrêtai et entendis la même voix ajouter « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Comme une élève du catéchisme, j'ajoutais cela aussi en me disant « Bien sûr, je n'ai pas d'ordre à donner. » Alors une grande paix pénétra en moi. Les douleurs, certes, étaient toujours là, mais mes soucis d'avenir avaient disparu. Vers 19h, je me couchais. Ce n'était pas peu de choses que de me mettre au lit, que de mots. Je m'endormis aussitôt, comme toujours du reste. Le lendemain matin, à 8h, je me retrouvais dans la cuisine, en train de préparer mon déjeuner. Tout à coup, je me dis, « Mais que fais-tu ici ?» Comment es-tu parvenu jusque-là ? Toute mon histoire me revint à l'esprit, et en la réalisant, je fus saisi de la crainte de l'Éternel. J'esquissai alors quelques mouvements de gymnastique et m'aperçus que je ne ressentais absolument plus rien. Je regardais mon pied, dont droit habituellement noir et gonflé d'eau, il était aussi blanc que le pied d'un enfant. Je mettais aussitôt les gens de la maison, je téléphonais à mes enfants. Personne ne pouvait le croire. Quant à moi, une joie si débordante me remplit le cœur que j'aurais pu chanter des cantiques dans la rue. C'était le samedi saint. Le jour de Pâques, le lendemain, avec quel bonheur et avec quelle reconnaissance, je suis allé au culte, laissant mes cannes à la maison et trottant comme si j'avais 20 ans. Le matin de Pâques, en me levant, je reçus l'onction, c'est-à-dire la plénitude de la grâce. J'étais lavé, justifié, pardonné, sanctifié, régénéré, à tel point que les gens m'arrêtèrent me disant « Qu'avez-vous ? On ne vous reconnaît plus, vous êtes toute jeune. Comment se fait-il que vous couriez ?» Au moment de la Sainte Cène, je puis dire que je communiais seul avec Jésus-Christ. Je ne vis personne et j'éprouvais un bonheur incommensurable. Le plus extraordinaire, c'est que cela dure ainsi depuis, il y a maintenant une année. Chaque jour, je sens sa présence. Et la nuit, je m'éveille un cantique aux lèvres, toujours approprié à mon cas. Sa présence est si réelle que je dois dire à chacun « Je sais que Jésus vit, qu'il est ressuscité et qu'il est toujours avec nous. » Sur l'ordre du maître, je vais visiter les malades dans les hôpitaux, les vieillards et les souffrants de notre entourage. Ce qui me renverse, c'est qu'ils m'attendent avec impatience et comprennent assez vite mon message. Je n'y suis pour rien, c'est le don de Dieu, afin que nul ne se glorifie. C'est quand même merveilleux qu'il m'emploie encore à son service, pourvu que j'écoute ce qu'il a à me dire et que j'obéisse. Il y a longtemps que, en pensant aux apôtres, aux martyrs ou aux réformateurs, je me doutais qu'il existait une force que l'on n'emploie pas. Maintenant, je sais, sans l'ombre d'un doute, ce qu'on peut attendre du Sauveur, de Sauveur du monde. C'est tout simplement le royaume de Dieu sur la terre. Madame Veuve Jean Gauchat, institutrice à Colombier, en Suisse. Voilà un beau témoignage qui n'est pas tout récent, mais qui nous montre que le Seigneur est tout puissant pour agir en tout lieu, en tout temps et dans les situations les plus grandes de détresse. Voulons maintenant ouvrir la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Et nous allons lire ensemble ce passage, mais nous allons tout d'abord remettre encore ces instants entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons encore pour ta présence, pour ta fidélité, pour la façon dont tu agis encore, pour cette possibilité que nous avons d'entendre des témoignages encourageants qui sont aussi là pour que nous puissions saisir par la foi, la guérison, la délivrance, le secours dont nous avons besoin, et aussi pour que nous puissions apprendre à mettre notre vie à ta disposition et à ton service. Te remercions parce que là encore, tu nous fais saisir cela au travers de ta précieuse parole de vie. Amen. Lisons ensemble dans le livre des Proverbes au chapitre 3 à partir du verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Amen. Nous voyons que ces versets nous parlent de la bonne façon de recevoir et de garder la parole de Dieu avec les grandes bénédictions qui en découlent. Et certainement, ce sera pour nous une bonne exhortation et un grand encouragement que de s'arrêter sur chacun des points qui composent ce passage. Et c'est pour cela que nous pourrons voir ensemble, concernant ces versets, deux grands chapitres. Parlons tout d'abord de la bonne façon de garder la parole de Dieu. Nous relèverons une dizaine de choses à ce sujet. Et puis nous parlerons ensuite, Dieu voulant, des bénédictions qui en découlent, qui en résultent pour ceux qui la gardent ainsi. Et là, nous avons plusieurs points également. Donc, parlons de la bonne façon de garder la parole de Dieu. Et la première chose qui nous est dite, au verset 1er, c'est que nous ne l'oublions pas dans notre mémoire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, nous dit Dieu. Certainement, nous devons tout faire pour garder les enseignements bibliques dans notre esprit. Sinon, comment pourrons-nous nous diriger sur le sentier de la vie ? Comment pourrons-nous nous souvenir des promesses de Dieu pour les saisir par la foi et les voir s'accomplir? Comment pourrons-nous être gardés de tous les pièges et qui peuvent nous guetter dans cette existence? La mémoire des choses de Dieu n'est pas tout, bien sûr, mais elle est la base à partir de laquelle on peut construire une vie bénie de Dieu, et c'est pourquoi il faut en tenir compte. Et c'est pourquoi cette recommandation est citée en tout premier. Deuxième chose, en gardant aussi la parole de Dieu avec le cœur. « Et que ton cœur garde mes préceptes », dit la fin du verset premier. Donc ça veut dire qu'il faut que cela aille plus loin que la mémoire. Sinon, on restera de tristes et froids connaisseurs. On pourrait même être de grands théologiens, mais sans avoir la vie véritable et bénie de Dieu. Il faut que le cœur, le siège des sentiments et de la volonté, soit profondément concerné. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 3, l'apôtre Paul nous dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Et c'est là une œuvre de l'Éternel pour ceux qui se confient en lui. Et c'est pour ça que nous avons encore, par exemple, Jérémie au chapitre 31, verset 33, qui nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est quand le cœur est touché par la grâce et par la parole de Dieu que cette bénédiction peut se répandre sur les cœurs et dans les vies. Amen. Et puis aussi, la bonne façon de recevoir l'Écriture, c'est en accompagnant cette réception de la parole de Dieu de bonté. C'est ce qu'on voit au verset 3, hein, donc, « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, il est à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Une bonté dans le cœur et une bonté manifestée au dehors comme un beau collier qu'une femme porte au cou pour qu'il soit vu de tous, bien sûr. Ainsi, la bonté doit aussi être manifestée, car c'est ainsi que le Seigneur la récompensera. Voici une anecdote qui remonte au XIXe siècle, qui nous parle de la magnanimité d'Umsiligazi. Umsiligazi, c'était un grand chef d'Afrique du Sud, et il plaça sa main gauche sur l'épaule de Robert Moffat, le missionnaire, et sa main droite sur sa poitrine et lui dit « Machobane, je t'appelle ainsi parce que tu as été mon père. Tu as rendu mon cœur blanc comme le lait, ça veut dire heureux. Tu m'as nourri lorsque j'étais affamé, tu m'as vêtu quand j'étais nu, tu m'as porté dans ton sein. » Moffat répondit qu'il n'avait pas eu conscience d'avoir accompli aucune de ces choses à l'égard du chef. Mais Umsiligazi montra du doigt ses deux ambassadeurs et dit « Ceux-ci sont de grands hommes, Umbate et ma main droite. Ce qu'ils ont entendu, je l'ai entendu. Ce qu'ils ont vu, je l'ai vu. Et ce qu'ils ont dit, c'est Umsiligazi qui l'a dit. Tu les as nourris, tu les as vêtus, et quand on a voulu les tuer, tu as été leur bouclier. Tu as fait cela pour Umsiligazi, le fils de Machobane. » Quel merveilleux commentaire de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 35 à 39, que nous lisons encore. Matthieu 25, verset 35. Voici ce que dit le Seigneur, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ? Ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Voilà. Et puis, donc, ceci nous rappelle que Christ bénit abondamment ceux qui accompagnent le fait de garder la parole de Dieu de bonté, selon l'Écriture. et puis recevoir la parole aussi en accompagnant de fidélité dans le cœur et manifestée au dehors. C'est ce qu'on voit également dans ce verset 3, hein, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Hein, c'est le mot hébreu « emet » qui signifie aussi « fermeté ». Et de là, stabilité, caractère digne de confiance. La fidélité, c'est quelque chose qui se juge sur pièce, au travers de l'épreuve et au travers du temps qui passe. Il y a des bénédictions particulières qui sont réservées, très précieuses, à ceux qui sont fidèles. Quand Shackleton, le grand explorateur, préparait ce qui devait être sa dernière expédition dans l'Arctique, un événement intéressant se produisit. Shackleton était assis dans un bureau à Londres et parlait avec un ami de l'expédition projetée. Cet ami lui dit « Je suis surpris de toute la publicité que vous donnez à votre nouvelle aventure. Cela ne vous ressemble pas du tout. » Shackleton répondit « J'ai un but en agissant ainsi. Je veux que mon collègue, M. Wilde, entende parler de mes projets. Il est parti au centre de l'Afrique sans laisser d'adresse. Mais j'ai pensé que si je publiais la nouvelle de mon départ, cela pourrait se savoir jusqu'au centre de l'Afrique. Et si Wilde sait que je pars, il viendra. » Il y eut un bruit de porte qui se fermait. Ils se retournèrent tous deux. Et là, dans le couloir, il y avait M. Wilde. Ce fut un moment solennel, quand Wilde et Shackleton se serrèrent la main de la fidélité et de la loyauté. « J'ai entendu dire que vous partiez, » dit Wilde. « La nouvelle m'est parvenue jusqu'au cœur de l'Afrique, et quand j'en ai eu connaissance, j'ai posé mon fusil, j'ai pris quelques bagages, je suis rentré au pays, et me voici. Quels sont vos ordres ? » Feriez-vous cela pour le Seigneur ? Obéiriez-vous ainsi à sa parole? Dieu accueille et agit d'une façon particulièrement favorable envers ceux qui sont fidèles. Et puis en cinquième, garder sa parole signifie aussi l'accompagner de confiance, c'est ce qu'on voit au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il faut se confier en lui, mes amis, de tout son cœur. C'est ce qui est marqué là. Est-ce que vous avez placé toute votre confiance dans la parole de Dieu pour cette vie et pour l'éternité? Après la libération de l'esclavage aux États-Unis, un vieux noir qui avait été esclave auparavant et qui ne savait pas lire, mais croyait au Seigneur de tout son cœur, était là sur son lit de mort. Et il demanda au pasteur qui était là de lui lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis il s'adressa au pasteur et lui dit, « Frère, signe mon nom à côté de ce verset, et laisse-moi tenir la plume pendant que tu guides ma main. » Il avait acheté quelque temps auparavant une cabane avec un terrain, et il comprenait la signification d'un contrat. Et dans son délire, alors qu'il était mourant, il s'écriait plus tard, « Pour être sauvé, je n'ai qu'à croire au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai signé la Bible pour montrer que je crois vraiment. » Amen. Quel exemple pour nous, n'est-il pas vrai? Et puis la confiance s'amène tout naturellement à l'obéissance. C'est notre point suivant. Quand il est dit au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Parce que l'obéissance, c'est cela, le reconnaître dans toutes nos voies. Remarquez qu'il est question d'une obéissance qui se manifeste ainsi dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans toutes les circonstances de notre vie, non seulement à certaines heures, pardon, et à certains moments, mais en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est quand nous avons à cœur d'obéir ainsi à la parole de Dieu que ses promesses contenues dans ce verset, se réalisent pour nous. Amen. Et puis il nous est parlé aussi, pour bien recevoir cette parole, de se défier de soi-même. C'est dit au verset 5, « Ne t'appuie pas sur ta sagesse » et au verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Celui qui se confie en lui-même, ne peut se confier en Dieu. Mais celui qui est conscient de ses incapacités et se tourne vers Dieu avec foi, en s'abandonnant à la volonté divine, et en croyant que le Seigneur le conduira au mieux, celui-là éveillera la compassion et l'amour divin à son égard. Voici le témoignage d'un chasseur américain qui, justement, aimait beaucoup ce sport et qui habitait dans un pays extrêmement giboyeux. Et un matin, alors qu'il se promenait dans son champ, il entendit les aboiements de plusieurs chiens dans le lointain. Comme ils approchaient, il vit de l'autre côté d'un grand fossé un petit faon qui était là, épuisé, la langue pendante, les flancs couverts d'écume. La petite bête eut juste assez de force pour sauter le fossé et demeura là un moment avec ses grands yeux liquides remplis de terreur. Quand il vit un chien sauter le fossé non loin de là, sa première réaction fut de s'enfuir à nouveau. Puis il se ravisa et alla se jeter aux pieds du spectateur et s'écroula juste devant lui. Et celui-ci raconta plus tard « Je demeurai là, à combattre les chiens pendant près d'une demi-heure. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer que tous les chiens du pays puissent capturer le petit faon après que sa faiblesse ait fait appel à ma force. » Après que sa faiblesse ait fait appel à ma force. Confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur, pour que sa compassion et son amour puissent être manifestés pour vous. Gardez la parole de Dieu de la bonne façon également, notre 8e point, en ayant la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Il est dit là, dans la deuxième partie du verset 7, « Crains l'Éternel, crains l'Éternel. » Il est bon que nous demeurions dans la crainte. Cela nous gardera aussi dans l'humilité et nous préservera de tout orgueil maudit. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, au verset 20, il nous est dit « Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Dieu garde ceux qui ne sont pas présomptueux, mais qui demeurent dans cette crainte de lui désobéir. » Et d'ailleurs, ce même verset, juste après, il est marqué « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Car le péché et la parole de Dieu ne peuvent cohabiter dans un même cœur. Ce sont deux maîtres implacablement opposés et irréconciliables. Nul ne peut servir deux maîtres. S'il aime l'un, il méprisera l'autre. Si on aime un péché et qu'on veut le garder, même secrètement, on ne peut garder la parole de Dieu et on ne peut pas en avoir la bénédiction. Mais celui qui se repent du péché, qui avoue à Dieu ses transgressions et les délaisse, celui-là obtiendra miséricorde et grâce et pour lui seront également les bénédictions et les promesses de l'Écriture. Amen. Enfin, notre 10e et dernier grand point, garder la parole de Dieu en honorant l'Éternel matériellement. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Non pas, mes amis, que Dieu ait besoin de nos biens, car toutes choses sont à lui, mais afin qu'il soit prouvé dans les faits que nous l'aimons et que nous gardons sa parole. Et aussi, afin qu'il puisse nous secourir matériellement en réponse à notre foi ainsi manifestée. Arrivons-en maintenant à notre deuxième grande partie, c'est-à-dire les bénédictions qui découlent de cette manière de garder la parole de Dieu ainsi. Déjà, un premier grand avantage, les jours et les années de leur vie seront prolongés, est-il dit au verset 2. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Notre temps de vie peut être rallongé ou raccourci, suivant la façon dont nous vivons et agissons. Et c'est dit dans l'Épître à Timothée, au chapitre 4, verset 8, « La piété a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. » Et là, il nous est parlé d'un prolongement de vie, et l'idéal serait évidemment qu'il se poursuive jusque dans la vie éternelle pour chacune et chacun d'entre nous. Une deuxième conséquence bénéfique, c'est que leur paix est augmentée. On a vu cela aussi dans la continuation de ce verset 2. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Le psaume 119 au verset 165 nous dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Béni soit Dieu. » Et puis, ils acquièrent aussi de la grâce. C'est un troisième grand avantage, un troisième grand privilège. Tu acquerras ainsi de la grâce. D'autres traductions mettent de la faveur, c'est-à-dire la faveur divine avant tout, et même parfois humaine, hein, le signe reconnu de tous d'une véritable intelligence. Hein, donc, et nous avons l'exemple du Seigneur dont il nous est dit dans sa jeunesse, dans son enfance et sa jeunesse, un résumé nous est donné en Luc chapitre 2, verset 52, et là il est marqué « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, est-il dit, devant Dieu et devant les hommes. » Et mes amis, ces trois premiers points que nous venons de voir, c'est-à-dire le jour et les années de notre vie prolongée, notre paix augmentée, l'acquisition de la grâce, eh bien, ce sont les moyens constituant ensemble le moyen du bonheur. Maintenant, voyons ensemble le moyen de la sécurité. Et là, il nous est parlé d'une raison saine, de l'acquisition d'une raison saine. Toujours dans le verset 4, mais dans la deuxième partie, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Laquelle raison va nous conduire au mieux dans les circonstances difficiles de la vie, dans les choix parfois inextricables qui sont à faire. C'est de cette manière que nous allons être gardés et secourus par Dieu. Une chose encore, un autre avantage, c'est que Dieu aplanit leur sentier, est-il dit dans le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il va ainsi écarter tout obstacle et tout danger de leur chemin. Voici un témoignage qui remonte à plus loin dans le temps que celui dont nous avons parlé au début de ces moments. Ça donne le témoignage d'un corsaire qui s'est converti. Et ça, c'était au temps de l'Empire français. Et là, il y avait plusieurs missionnaires de l'église des frères Moraves qui se trouvaient rassemblés à Londres. C'était la guerre entre la Grande-Bretagne et Napoléon, entre autres, hein, et la France, une grande partie de l'Europe derrière lui. Donc, ces missionnaires voulaient regagner leurs différents territoires missionnaires, mais les vaisseaux corsaires rendaient dangereux les voyages par mer. Et après une longue attente, voilà qu'une flotte de guerre considérable s'assemble pour escorter les navires marchands. Et en descendant la Tamise, en vue de gagner la haute mer, la flotte comptait près de 60 voiliers destinés à l'Amérique du Sud. Et un seul de ces bateaux avait pour but l'île Saint-Thomas, une île portugaise située dans le golfe de Guinée. Et le nom de ce navire, c'était Britannia. Il était occupé par nos missionnaires et il dut continuer sa route tout seul dès l'île de Madère, puisque tous les autres bâtiments naviguaient vers l'ouest. Et ce trajet fut abordé avec de lourdes appréhensions. Et deux des missionnaires et leurs épouses avaient tôt fait de gagner la confiance du capitaine, qui leur confia « Ah, si seulement j'avais autant de foi en Dieu que vous, mais je dois m'occuper de beaucoup trop d'autres choses !» Le voyage se passa sans incident, le navire approchait les tropiques. Un matin, le capitaine découvrit à l'horizon un navire suspect. « Jean, dit-il à son second, c'est un grand brick, mais je ne vois aucun pavillon. »« Capitaine, ils sont juste en train de hisser un pavillon rouge comme du sang. C'est le Jacobin rouge, nous sommes perdus !» observa le pilote. « Hissez toutes les voiles, le vent nous est favorable. Dans quelques heures, nous aurons disparu à leur vue. » Le Britannia changea de cours, se dirigeant vers le sud, mais le corsaire s'en était aperçu et prit la même direction. Alors le capitaine parla à son équipage, composé de 13 hommes, et dit « Vous avez vu le Jacobin ? Que chacun fasse son devoir et à la grâce de Dieu !» S'adressant aux missionnaires, montés sur le pont eux aussi, il dit « Rendez-vous dans la cabine, chers amis, et priez pour nous !» C'est ce qu'ils firent. Et crièrent au Seigneur pour qu'il veuille prendre soin du navire et de son équipage, et restèrent là à prier de manière persévérante. Mais le corsaire s'était approché. Il commença par contourner le Britannia pour fondre sur lui subitement. Le Britannia laissa sans réponse la sommation de se rendre du Jacobin rouge, qui ouvrit ses sabords et déchargea sur lui une pleine volée de largeur de flanc, de coups de canon, l'effet. Car tout à coup, le Jacobin Rouge fut saisi par ce qui ressemblait à une tornade, à un tourbillon, dont, au miracle, le Britannia fut entièrement épargné. Les éléments étaient révélés les amis du Britannia en combattant contre le corsaire, et ils le gouvernèrent même en droite ligne vers le sud. Bientôt, les coups de canon du corsaire ne se faisaient plus entendre qu'à une lointaine distance. Quelle stupeur pour les marins du Britannia, se relevant du pont, de voir leurs ennemis tirer une salve de salut et s'éloigner vers l'ouest. Personne ne put comprendre ce jour-là pourquoi ils avaient renoncé à la poursuite. On s'imagine aisément comment les missionnaires furent reçus sur le pont, où tout l'équipage se trouvait réuni. Combien ils se réjouirent de ce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui pour la vie et la mort. Quelques années plus tard, alors qu'ils étaient à nouveau réunis, un visiteur inconnu se fit annoncer. Il s'approcha d'eux avec une expression aimable. Son visage reflétait la paix. On lui demanda alors de qui on avait le plaisir de faire connaissance. Il se révéla comme étant l'ancien capitaine du Jacobin Rouge. Et il raconta la façon extraordinaire dont le bateau lui avait échappé ce jour-là. Le mouvement inopiné du navire, l'équipage d'abordage lancé à la mer, les coups de canon trop courts, le Britannia s'éloignant ensuite à une vitesse surnaturelle, et l'air en avait l'impression qu'il était muni d'un nombre énorme de voiles. Il paraissait enveloppé d'une légion d'anges. Et c'est suite à cela qu'après un certain processus, il se convertit au Seigneur. En tout cas, ce fut la base, le point de départ de sa conversion. Et le Seigneur aplanit les sentiers de ceux qui le servent. Il les secourt dans les difficultés. Il leur donne la délivrance. Et un autre avantage encore, au verset 8, il nous est dit « Ce sera la santé pour tes muscles ». D'autres traduisent « Ce sera la guérison pour tes muscles », quels que soient d'ailleurs ces muscles du corps. Et on voit en plus, dans le même verset, le rafraîchissement des os, donc une belle promesse au sujet de toutes les maladies osseuses en particulier, et là aussi pour un renouvellement à ce niveau-là. L'intervention de Dieu dans notre santé est quelque chose qui parcourt l'Écriture, son désir de nous guérir, de nous régénérer, de nous soulager et de nous renouveler. Et puis enfin, au verset 10, il nous est expliqué que ceux qui reçoivent la parole de Dieu de la bonne façon, il sera pourvu à leurs besoins en abondance. C'est le moyen de la prospérité sans aucun manque. Alors, frères et sœurs, chers amis, attachons-nous fermement et profondément à la parole de Dieu. Ayons à cœur de la lire, de la méditer en priorité dans notre vie. Faisons-lui confiance dans toutes ses affirmations et jusque dans les plus petits détails. Ayons à cœur de la mettre en pratique avec bonté et fidélité. Qu'elle nous amène à suivre et à aimer Christ comme notre Sauveur et Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur mettra sur notre vie la plénitude de sa bénédiction et accomplira toutes ses promesses, contenues comme autant de précieux trésors dans cette merveilleuse Écriture sainte. Amen. Te remercions, Seigneur, nous te bénissons, parce que ta parole nous expose exactement la bonne façon de recevoir son message. Et merci de pouvoir encore entendre cela et que chacun et chacune d'entre nous puissions également le mettre en pratique avec ton secours point par point et que cela puisse vraiment se produire dans notre vie à chacun. Et merci parce que nous savons qu'ainsi tu accompliras toutes ces bonnes promesses. C'est ainsi que tu veux accorder tous ces précieux avantages. Et Seigneur, tu n'en laisseras manquer aucun pour tes enfants. Merci Seigneur, béni sois-tu pour ta fidélité et ta bonté. Amen, amen. Et voilà, nous avons maintenant en conclusion encore les annonces. Donc en premier, le culte dimanche à 8h30 et à 10h45. Si vous voulez y participer, n'oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement possible. Je vous rappelle la séance de questions bibliques et réponses le mercredi à 19h15, la réunion de prière le mercredi à 20h15, pas besoin de s'inscrire. Et puis nous envisageons une mission à Besançon la semaine prochaine, du lundi 19 au jeudi 22 juillet inclus. Là aussi, inscrivez-vous sans tarder pour y participer. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, en particulier ceux qui décident de s'attacher réellement à l'Écriture sainte pour la lire, la méditer, l'étudier assidûment et y obéir de tout leur cœur. Amen.